Bonjour à tous, Israël est en état d'alerte à la veille des fêtes juives. Tsahal renforce son dispositif sur quatre fronts. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne regrettait pas d'être entré en guerre contre l'Iran, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur les élections de mi-mandat.
Il y a 25 ans, le 11 septembre 2001, les États-Unis vivaient les pires attaques terroristes sur leur sol. 2977 personnes ont perdu la vie à New York, Washington et en Pennsylvanie. Et enfin en Belgique, un cabinet restreint du gouvernement fédéral se tiendra dans 30 minutes sur la table. Entre autres, l'accueil d'étudiants et de chercheurs issus de la bande de Gaza. Israël est en état d'alerte à la veille des fêtes juives. Tsahal renforce son dispositif sur ses quatre fronts.
Depuis plusieurs semaines, Tsahal examine différents scénarios impliquant l'Iran, Gaza, le Liban et la Judée-Samarie. Une division supplémentaire pourrait être mobilisée en quelques heures si plusieurs fronts s'embrasaient simultanément. Au Liban, l'armée vient d'achever la destruction d'un vaste réseau souterrain du Hezbollah, on va y revenir. Tsahal se prépare désormais à une éventuelle riposte du mouvement terroriste chiite libanais. L'Iran reste cependant la principale source d'inquiétude pour Israël. Aucun signe d'une attaque imminente n'a été détecté, mais l'État hébreu affirme avoir déjà sa liste de cibles en cas d'offensive iranienne. À Gaza, où Tsahal dit contrôler 63% du territoire, les opérations se poursuivent. L'armée israélienne anticipe également l'apparition possible de drones guidés par fibre optique, comme contre ses soldats au sud Liban. Enfin, 26 bataillons sont déployés en Judée-Samarie pour prévenir les infiltrations, les fusillades et les attentats à l'explosif. Depuis le 7 octobre, l'armée de l'air applique également le principe de l'heure d'or, intervenir immédiatement avec des hélicoptères, des avions et des drones pour empêcher toute attaque de prendre de l'ampleur.
Tsahal a annoncé avoir achevé le démantèlement des principales infrastructures souterraines du Hezbollah dans la zone de la crête d'Alitaer au sud Liban.
La destruction des tunnels souterrains de la crête d'Alitaer au sud Liban a nécessité hier soir plus de 1100 tonnes d'explosifs, un chiffre qui illustre l'ampleur du réseau anéanti dont 8 galeries s'étendaient sur plus de 2 km. À titre de comparaison, la destruction des tunnels sous le Beaufort avait nécessité 700 tonnes d'explosifs. Certaines sections des tunnels d'Alitaer se trouvaient jusqu'à 40 mètres sous terre. Les forces israéliennes y ont découvert des dizaines de roquettes, missiles et drones de fabrication iranienne, ainsi que des mitrailleuses, des dizaines de missiles anti-chars, des mines, des obus de mortier, des engins explosifs et des corps de terroristes du Hezbollah. Avec cette opération, Tsahal dit avoir atteint deux objectifs, neutraliser un centre stratégique de commandement du Hezbollah et consolider son contrôle opérationnel sur la crête d'Alitaer, un point dominant la région de Nabatieh. Tsahal affirme qu'elle continuera d'opérer dans la zone de sécurité du sud Liban pour empêcher le Hezbollah de reconstituer ses capacités. Tsahal qui reste engagé envers l'accord de cessez-le-feu avec le Liban. Plusieurs responsables israéliens considèrent qu'une riposte iranienne directe face à cette destruction est peu probable, même si Israël reste prêt à tous les scénarios. Israël a neutralisé un terroriste de haut rang du Hamas qui avait participé à plusieurs attentats meurtriers. Cette fois, c'est l'unité des forces spéciales guidéonymes de la police israélienne et non l'armée qui l'a éliminé.
Interception en haute mer, opération terrestre, renseignement et frappe ciblée. Selon le Jerusalem Post, la marine israélienne occupe désormais une place centrale dans la stratégie militaire du pays.
La marine israélienne élargit son champ d'action bien au-delà de la protection des côtes. En mai dernier, elle aurait mobilisé 600 militaires pour intercepter la flottille de Gaza. La transformation la plus importante se déroule sur terre. Les commandos des marines sont désormais intégrés aux unités engagées à Gaza. Certains combattent depuis plusieurs mois aux côtés des brigades terrestres. La flotte contribue également aux opérations de précision. D'après le Jérusalem Post, elle aurait participé à des frappes contre des responsables du Hamas à Gaza et au Liban. Et elle avait joué en mars 2026 un grand rôle dans l'opération visant Ali Reza Tangsiri, le commandant de la marine des gardiens de la révolution islamique. Enfin, la menace des Houthis en mer Rouge pousse Israël à renforcer ses capacités maritimes autour d'Eilat et du détroit de Bab el-Mandeb face aux yéménites rebelles. Pour la marine israélienne, le défi est clair, être capable d'agir simultanément à Gaza, au Liban, face à l'Iran et jusque dans les eaux du Yémen.
Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne regrettait pas d'être entré en guerre contre l'Iran malgré l'impact que ce conflit pourrait avoir sur les élections de mi-mandat américaines de novembre.
Oui, Donald Trump qui s'exprimait sur Fox News hier soir et qui a déclaré « Je ne crois pas au mot regret. Si je devais recommencer, je ferais exactement la même chose », a-t-il dit dans cette interview dans l'émission The Ingraham Engel.
Et les négociations n'avancent pas, mais les ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe prévoient de rencontrer les Iraniens dans le cadre d'une initiative menée par Oman et l'Iran.
Une rencontre qui vise à obtenir l'adhésion à un accord temporaire pour réguler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Une rencontre apportée par le Financial Times ce matin qui devrait avoir lieu lundi dans la ville côtière omanaise de Salalah. Sur fond de tensions simultanées dans les détroits d'Ormuz et de Bab el Mandeb, le baril de Brent a frôlé les 106 dollars. Les marchés craignent de nous une nouvelle hausse des prix alors que le pétrole a déjà gagné plus de 30% depuis le début du mois d'août.
Le gouvernement américain a annoncé hier de nouvelles sanctions à l'encontre d'entreprises et de particuliers qui, selon lui, soutiennent le Hezbollah et d'autres mandataires iraniens au Moyen-Orient, alors qu'il intensifie sa campagne visant à isoler économiquement l'Iran.
Les mesures prises par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain visent des entités et des personnes en Irak, aux Émirats arabes unis, au Liban et en Turquie qui, selon Washington, soutiennent le Kateb Hezbollah en Irak et le Hezbollah au Liban. Dans le même temps, selon le Wall Street Journal, Téhéran aurait repris la production de missiles balistiques dans ses installations souterraines en utilisant des composants stockés avant la guerre. L'Iran pourrait progressivement reconstituer des centaines, voire des milliers de missiles balistiques pour menacer la région.
Donald Trump rejette l'appel du prince héritier saoudien en faveur de frappes américaines contre les Houthis.
Le prince héritier Mohammed bin Salman aurait appelé à deux reprises hier le président américain pour l'exhorter à lancer des frappes contre les Houthis, selon Axios. Donald Trump aurait rejeté cette demande et des responsables américains ont déclaré que l'administration Trump n'avait pas l'intention de mener une action militaire directe contre les Houthis pour le moment. Les Américains commémorent le 25e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. On y est largement revenu dans cette matinale.
Oui, liste des cérémonies commémoratives en hommage aux victimes auront lieu aujourd'hui sur les lieux des attentats, notamment à New York et à Washington. Des cérémonies qui sont à retrouver sur les réseaux sociaux en direct. Le 11 septembre 2001, 4 avions de ligne ont été détournés. 2 d'entre eux se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center à New York. Un autre sur le Pentagone dans la banlieue de Washington. Et le dernier dans un champ en Pennsylvanie. Le nombre total de victimes s'élève à 2977. À la suite de ces attentats, les États-Unis ont mené des opérations militaires, notamment en Afghanistan et en Irak, dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme. En 2011, le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, soupçonné d'avoir orchestré ces attentats, a été tué lors d'un raid militaire américain. On est revenu sur les attentats du 11 septembre avec Michael Benfredge, qui s'y trouvait il y a 25 ans à 7h15, et dans la question du jour avec notre invité David Benaim, spécialiste des États-Unis, qui a vécu plus de 15 ans à New York, des entretiens que vous retrouvez d'ores et déjà sur notre site radiojudaica.be. Et puis à l'approche du 25e anniversaire des attentats du 11 septembre, une cérémonie du souvenir s'est tenue dans la vallée des Cèdres à Jérusalem.
Le mémorial israélien présente une particularité, il est le seul monument situé en dehors des États-Unis sur lequel sont inscrits les noms de l'ensemble des victimes des attaques de New York, du Pentagone et de Pennsylvanie le 11 septembre 2001, organisé par le KKL et l'ambassade américaine entre autres. La cérémonie a réuni l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, des proches des victimes, des Marines américains et des pompiers israéliens, des survivants. Vivants et des familles endeuillées du festival Nova et du 7 octobre ont également participé à cet hommage. Leur présence a établi un lien symbolique entre ces deux attaques terroristes qui ont profondément marqué les sociétés américaines et israéliennes. Les différents intervenants ont insisté sur la mémoire des 2977 victimes, mais aussi sur la solidarité entre Israël et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. En Belgique, un cabinet restreint du gouvernement fédéral doit se tenir ce matin.
Oui, Lise, un agenda chargé attend le Premier ministre Bart De Wever et les vice-premiers ministres, avec entre autres l'accueil d'étudiants et de chercheurs issus de la bande de Gaza ou encore le dossier de la privatisation partielle de la banque Belfius. Le dossier des étudiants et chercheurs gazaouis fait l'objet de dissensions au sein de la majorité. Ils ont reçu une bourse d'une université belge mais sont dans l'impossibilité de quitter l'enclave et ne peuvent dès lors pas introduire une demande de visa au consulat de Jérusalem. Jérusalem. La ministre de l'Asile et de la Migration, Annelien Van Bossuyt de la NVA, craint un effet domino selon ses mots, car selon elle, ces étudiants pourraient faire venir d'autres Gazaouis par le biais du regroupement familial. Selon une source proche du dossier, le MR préférerait aussi que ces étudiants Gazaouis ne viennent pas en Belgique. Le dossier de la privatisation partielle de la banque vieille Belfius figure aussi à l'ordre du jour. On parlera aussi du budget européen. En effet, la Commission européenne a mis sur la table une proposition de budget en hausse de 60% par rapport à l'exercice précédent. La contribution belge augmenterait donc de 3,4 milliards d'euros par an. Une perspective jugée intenable par le Premier ministre, mais aucune position officielle belge n'a encore été adoptée.
Et le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, assure que les discussions budgétaires s'annoncent comme un exercice vérité pour le gouvernement de Weaver, qui devra, dit-il, montrer qu'il est encore capable de réformer le pays.
Oui, c'est ce qu'a déclaré Maxime Prévost sur le plateau de l'émission de la RTBF jeudi en prime. J'ai pleinement confiance en Bart De Wever et je n'ai pas de doute sur sa volonté d'aboutir à un résultat. C'est ce qu'a ajouté le vice-premier ministre, selon qui les discussions devront se dérouler en mode conclave, sans téléphone. Mieux vaut négocier avec ceux qui seront dans la pièce plutôt que d'être parasité de l'extérieur, a-t-il estimé. Sur le fond, personne ne se lève le matin en se disant qu'il veut créer une nouvelle taxe, mais nous devons aborder l'exercice avec courage et honnêteté intellectuelle. On ne réussira pas si chacun commence la kermesse aux lignes rouges et aux tabous, a poursuivi Maxime Prévost.
Moshe Friedman lance une nouvelle polémique, déjà à l'origine des actions en justice contre les circonciseurs. Il a cette fois assigné l'État belge en référé afin de le contraindre à déclarer l'ambassadeur des États-Unis Bill White persona non grata.
L'affaire sera examinée le 16 septembre selon les documents consultés par l'agence Belga. Moshe Friedman, qui réclame au juge d'imposer cette mesure à l'État belge dans un délai de 3 jours ouvrables sous peine d'une astreinte de 8000 euros par jour de retard, s'appuyant sur la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qu'il accuse l'ambassadeur américain d'ingérence dans les affaires intérieures belges et reproche aux autorités fédérales leur inaction. Le litige s'inscrit dans le cadre d'une instruction judiciaire en cours à Anvers sur la pratique des circoncisions rituelles dans laquelle Moshe Friedman est partie civile. Bill White a vivement critiqué cette procédure à plusieurs reprises, qualifiant publiquement Moshe Friedman d'imposteur et d'escroc.
Retour en Israël à présent. Tzahal a mobilisé ce matin tous les bataillons de la division de Judée Samarie pour un exercice surprise destiné à tester leur niveau d'alerte avant les fêtes. D'importants mouvements militaires sont attendus jusqu'à la mi-journée.
Un secret de famille, le regard d'un enfant et 10 statuettes. Tell Me Everything a largement dominé la cérémonie des prix Ophir, les Oscars du cinéma israélien.
Avec 10 récompenses, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur, le nouveau long-métrage de Moshe Rosenthal s'impose comme le grand gagnant du cinéma israélien cette année. Intitulé Atzmaout, Indépendance en hébreu, le film nous plonge en 1987, quand Boaz, 12 ans, découvre que son père entretient une relation avec un autre homme, dans une société encore marquée par la peur du sida et le silence entourant l'homosexualité. Cette révélation vient bouleverser toute la famille. Le réalisateur raconte ce séisme intime à travers les yeux de l'enfant, partagé entre colère, incompréhension et admiration et amour pour son père. Après Sundance et le Festival du film de Jérusalem, Tell Me Everything poursuit donc son parcours. Il devrait porter les couleurs d'Israël aux Oscars pour 2027.
8% des Israéliens juifs adultes se sont rendus au moins une fois dans leur vie sur la tombe du rabbin Nachman de Breslev, selon l'Institut israélien pour la démocratie.
Ouman est un lieu de pèlerinage visité chaque année par des milliers de juifs pratiquants malgré la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie. Le pic de fréquentation est simple, c'est aujourd'hui. Les chassidim de Breslav ont pour tradition de passer Rosh Hashanah sur la tombe du Rabbi. Les pèlerins israéliens constituent le groupe le plus important se rendant à Ouman pour Rosh Hashanah. Leur nombre a considérablement augmenté depuis les années 90 avec des dizaines de milliers de pèlerins chaque année.
Et pour finir sur une note positive, la bourse de Tel Aviv a largement devancé les principaux marchés mondiaux.
Les indices de la bourse de Tel Aviv ont bondi de près de 40%, alors que sur la même période, l'indice américain, le Nasdaq et l'indice européen étaient dans les 16 à 17%. Cette envolée israélienne s'accompagne d'une nette hausse de l'activité, 4,9 milliards de shekels comme volume moyen de transactions, contre 3 milliards l'année précédente. Les investisseurs étrangers représentent aussi maintenant un tiers des échanges à la bourse de Tel Aviv, qui a eu la bonne idée de faire ses séances le vendredi comme tout le monde, enregistrant maintenant représentant un volume moyen de 4 milliards de shekels contre seulement 1,6 pour les séances qui avaient lieu le dimanche. Un signal de confiance inattendu dans une année marquée par de fortes tensions régionales.